Chers amis, le monde dans lequel nous vivons nous interpelle beaucoup, et parfois nous avons l'impression que c'est nous qui commettons le péché originel. Ceci est d'autant plus vrai que les dernières nouvelles concernant la science moderne sont de plus en plus terrifiantes. Voici quelques exemples, venant tous de la revue Science et Vie. Dans le numéro de janvier 2017, on rapporte qu'il est question de réaliser des ordinateurs intelligents capables de concevoir et de dessiner en trois dimensions tous les objets que nous désirerions, objets allant du simple fauteuil à un avion très sophistiqué. Bientôt, notre pensée pourra diriger directement non seulement des robots, mais également des drones. J'ai même lu un article encore plus terrifiant. Bientôt, l'intelligence artificielle permettra de sauvegarder notre personnalité après notre mort. Et cet article explique qu'un jeune ingénieur américain cherche actuellement à stocker notre intelligence et notre personnalité dans une intelligence artificielle grâce à la nanotechnologie. Les données codées seraient ensuite, après notre mort, implantées dans un corps artificiel qui deviendrait nous. Et nous deviendrons ainsi des êtres éternels. Certes, cela ne pourra voir le jour que vers 2045, mais les études sont en route. Alors là, nous sommes vraiment perturbés. Mieux connaître la nature dans laquelle nous vivons grâce à la science moderne qui nous révèle toutes ses merveilles, cela c'est très bien et nous rapproche de Dieu. Mais devenir de vrais créateurs, devenir des dieux, c'est véritablement rejoindre Satan, disant à nos premiers parents « Vous serez comme des dieux ». D'ailleurs, beaucoup de nos contemporains se prennent pour Dieu lui-même, et mon dernier exemple le prouve. Heureusement, dans l'un des avant-propos du numéro de février 2017, un présentateur avoue. Mais, à ma grande surprise, rares sont ceux qui envisagent de réaliser les nombreuses applications que cette fusion mentale entre le corps et la machine ouvre dans la vie quotidienne ou professionnelle, lesquelles donnent pourtant le vertige. Oui, nous avons le vertige, et même nous avons peur. Alors prenons la peine de réfléchir encore, et regardons ce qu'est un homme dans l'univers. Oui, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que cet infiniment petit perdu dans les univers infinis? Qu'est-ce que l'homme, ce microbe que Dieu a créé et qu'il aime? Nous sommes terrifiés. Mais voici que soudain nous pensons à la parole de Dieu, incarnée en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu, incarné, regarde l'humanité. Il regarde, choisit, façonne, modèle, cisèle, puis, satisfait, place la petite pièce bien travaillée à un endroit bien déterminé du corps mystique qu'il est en train de construire. Étonnant. Dieu, Père et Fils, étroitement et indissolublement unis dans leur amour, l'Esprit de Dieu. Dieu, selon la volonté du Père et par les mains du Fils, construit sa création, son œuvre éternelle sans cesse renouvelée avec les petits hommes, les pierres vivantes, soigneusement préparées pour accomplir une tâche précise dans le joyau de Dieu. Et chacun d'entre nous se prépare ainsi à rejoindre sa place dans le corps du Christ lorsqu'il sera enfin prêt. Tout cela est un grand mystère. Nous contemplons Dieu que nous ne voyons pas. Chaque homme contient Dieu qui déborde éternellement et infiniment de toute sa création. Nous entendons Dieu qui ne parle pas avec des paroles humaines. Comment expliquer l'incroyable silence de Dieu qui pourtant ne cesse de nous parler, de nous appeler, de nous mettre en garde contre le péché? Comment entendre les cris silencieux de Dieu? Comment entendre le silence? Comment contenir l'infiniment grand qu'on ne peut contenir? Comment voir celui qui ne se montre pas? Comment sentir Dieu qui ne se laisse pas toucher? Et pourtant, Dieu parle aux hommes. Dieu s'est montré dans son Fils. Dieu brûle et nous brûle de son amour. Et ce feu est brûlant, dévorant, consumant. Et nous ne comprenons rien. De temps en temps, sur la chaîne de télévision KTO, nous pouvons assister à des émissions de spiritualité. Un jour, pendant une demi-heure, une religieuse théologienne parla du silence et des appels de Dieu. Bien sûr, disait-elle, on parle des appels de Dieu, mais on n'entend pas Dieu, évidemment, avons-nous envie de dire. Pourtant, quand Dieu appelle vraiment chacun d'entre nous, même si c'est le plus souvent sans parole, il nous est impossible de ne pas l'entendre. Nous n'entendons pas des paroles humaines, et pourtant nous comprenons. Tout notre être devient comme une certitude que Dieu veut, pour lui, chaque homme en particulier. Généralement, nous ne savons pas comment, nous ne savons pas quoi faire. Souvent, les chemins que nous croyons devoir emprunter se ferment les uns après les autres, et nous sommes en plein désarroi. Et pourtant, nous savons. Nous savons que Dieu nous appelle, mais à quoi ? Notre cœur brûle en Dieu. Nous ne savons pas où aller, et pourtant Dieu est toujours là, qui appelle. Nous marchons dans le noir jusqu'au jour où Dieu nous fait comprendre ce qu'il désire. Nous ne comprenions pas ce que Dieu désirait, car ce qu'il désire, c'est justement que nous devenions de plus en plus humbles et petits, jusqu'à ce que nous devenions aptes à accomplir la tâche pour laquelle il nous a créés. Mais en attendant, notre monde nous conduit vers le mal, vers le péché, souvent à notre insu, surtout pour les jeunes générations à qui l'on n'enseigne plus Dieu. Notre monde, donc chacun d'entre nous, a très mal dans son cœur. Oui, notre cœur a mal, du mal de Jésus pendant son agonie. Notre cœur pleure devant les innombrables détresses humaines dues, souvent, à la multiplicité des péchés des hommes qui ont chassé Dieu. Notre cœur pleure avec Jésus, car les hommes, se croyant Dieu, ont grandement péché en voulant se mettre à la place de Dieu. Et chassant Dieu, les hommes ont chassé leur bonheur.